sais pas si c'est le plus beau, mais il est plus gros, par exemple, en 2020. Il avait un meilleur format. Le Seigneur a dit, tiens, je vais les gâter cette année. Il y a bien de la tourtière. Il y a plein de bonnes choses. Alléluia. Hey, bonne année. Ce matin, c'est ce que je souhaitais à tout le monde. Faut que tu aies la faveur de Dieu cette année. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est imaginez-vous le buffet le plus garni qu'il n'y a pas. Même les choses que tu ne savais même pas qu'elles existaient, tu vas et tu sais quoi, ça goûte quoi ça, puis tu dégustes. Tu sais, la faveur de Dieu, là, c'est, tu te fais inviter là, à un festin, c'est exactement ça. Vous savez, dans le psaume, il dit, le Seigneur dresse une table devant tes ennemis. Pendant que toi, tu es en train de succuler et de manger des bonnes choses, tu vois les anges et Dieu agir. Comme un beau spectacle dans lequel tu sais ce qui se passe parce que tu es participant, mais ton cœur, lui, est dans la paix, il est dans la joie, il est dans l'amour, pendant que tu vois que Dieu est en train de faire une œuvre de restauration, de guérison, il est en train de changer l'atmosphère. C'est pas merveilleux, ça? Il faut apprendre le bon combat. Il faut apprendre, c'est pas la chair et le sang le problème. C'est souvent les vérités qui sont captives, les révélations qui restent en stand-by, qui restent cachées. La puissance et l'action qui n'a pas encore agi pour faire son œuvre. C'est ça, nous, notre tâche, c'est de faire en sorte de débarrer, délier les choses qui sont dans le ciel pour qu'ils prennent forme sur la terre. Et ça, c'est parfait. C'est le fun. Ça, c'est le fun que Dieu a réservé pour nous. Mais nous, on a l'impression souvent que ce n'est pas le fun, que c'est les épreuves. Mais les épreuves sont là pour nous fortifier, sont là pour faire en sorte qu'on découvre notre plein potentiel. Il faut apprendre à avoir de la joie dans les épreuves. Il ne faut pas juste le lire, il faut le vivre. Et pour ça, des fois, ça prend une équipe gagnante autour de toi. Il faut que tu te frottes avec des héros. Le courage vient avec ceux avec qui tu te bats. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du sport, mais moi, j'ai joué au football. Et c'est une place où tu apprends le courage. En tout cas, tu le ressens, le courage. Parce que quand on est dans la chambre, on se tape ses épaulettes, on se frappe les casques parce qu'on sait qu'on va souffrir. On va souffrir quand on va rentrer sur le terrain. Fait qu'on se fait une petite préparation pour commencer à se donner une petite idée de casse à casse, épaule à épaule. Fait que, tu sais, on est comme violent dans l'équipe. Mais plus on est violent dans la chambre des joueurs, et plus on est proche de la victoire sur le terrain. Et il y a un verset qui dit ça, ce sont les violents qui s'apportent du royaume des cieux. Comment vous vous entraînez face aux défis qui sont devant vous? Êtes-vous là, oh non, je ne veux pas sortir de la chambre? Ou bien non, vous partez avec votre équipe, tu t'en vas sur le terrain, puis écoute, tu serres les dents, puis on fait des bruits pour essayer d'intimider, c'est psychologique. Mais elle m'a dit de quoi, quand tu rentres, tu as une équipe soudée où la victoire est déjà inscrite, Dans l'esprit de chaque joueur et qu'on s'en vient pour récupérer ce qui nous est dû, ça fait mal. Ça fait mal. Et on est comme ça, avec une ambiance différente, par exemple. Nous, c'est la joie. Nous, on rentre avec un esprit joyeux. On rentre avec un esprit de paix, un esprit d'amour. On n'est pas obligé de brasser la cage à personne. La vision, je voudrais commencer avec la vision pour cette année 2020. Écoute, je ne sais pas, est-ce que cette année, les prophètes sont excités? 2020, écoute, il y a quelque chose qui se tient là-dedans. Moi, je ne suis pas très numérologique, mais je sais que, hein? Le double du 10-10, est-ce que ça démontre qu'il y a comme une amplification, là. 2 fois 20, là, il y a comme... C'est ça, fait qu'il y a quelque chose qui est là et je sens beaucoup d'excitation et je sens dans mon esprit une excitation. C'est comme si les temps de préparation n'étaient pas rendus à la fin parce qu'on se prépare, puis on se renouvelle, puis on se développe de jour en jour. On est appelé de gloire en gloire. Mais cependant, il y a un temps où ce que les Marines, quand ils ont fini l'entraînement, puis qu'ils restent, des fois que 10 ou 15 % de tous ceux-là qui avaient été appelés à commencer l'entraînement, Mais les 10-15 qui restent, eux, ils sont rendus un élément important pour l'armée parce qu'ils ont, ils ont pris avantage dans leur formation, ils ont pris l'expérience et sont prêts maintenant à des opérations plus structurées, des opérations plus difficiles. Et vous savez, il y a une chose que vous devez oublier, que vous ne devez jamais oublier, c'est que même ceux qui ont décidé, il y a un film, je ne sais pas si c'est vrai, mais il semblerait qu'il y aurait une cloche, que ceux qui allaient sonner la cloche, ils se disent qu'ils retournent à la maison, ils rompent les rangs. Mais je veux juste vous dire que ceux qui restent vont donner leur vie pour ceux qui ont sonné la cloche. Et que ceux qui ont sonné la cloche n'étaient peut-être pas dans le bon corps pour le moment, n'étaient peut-être pas dans la bonne place en ce moment. Mais ces gens n'ont pas sorti de l'armée, ils n'ont pas abandonné l'armée. Ils ont juste été remis à un autre endroit. Et j'aime, et je vais parler de cette cloche-là. Là, je viens d'y penser, mais je vais essayer de m'en rappeler, de parler de cette cloche-là, parce qu'il y a un endroit pour chacun de nous, pour sonner la cloche, parce que le Seigneur nous appelle dans un autre domaine, parce que la période de formation qu'on avait maintenant est terminée, on s'en va dans une autre période de développement. Il faut avoir une place pour avoir une cloche sans perdre l'honneur, perdre la face et sans sortir de l'armée. Est-ce que vous me saisissez? Mais ça, je dévance mon message et que je ne suis pas bon. Vision 2020. Dieu nous a donné une mission, Dieu nous a donné une vision et par la bouche des prophètes, Dieu nous a donné une direction de comment faire les choses. Comment faire en sorte que son amour soit pas seulement quelque chose qui est scriptuaire, mais quelque chose qui est démontré en action et en vérité, qui peut être authentique. Tu parles de l'amour de Dieu, sois pas surpris qu'il va gratter dans ta vie pour comprendre où est-ce que ça s'attache, l'amour-là. Et à partir de ce moment-là, je souhaite de tout cœur qu'il est en train de gratter la croix, qu'il est en train de gratter un endroit où est-ce que tu es couvert par le sang de Jésus. Nous, on n'est pas parfait, mais celui qui habite en nous, lui, il l'est. Et à partir de ce moment-là, de dire, quand que tu me grattes, il faut que tu trouves Christ au centre de ma vie, qui est en train d'étendre le sang sur mes faiblesses. Je ne suis pas parfait. Et ce n'est pas parce que je suis parfait que je suis disqualifié de porter cet amour-là. Parce que cet amour-là est plus grand que moi et je voudrais que tu connaisses. Un amour qui couvre tes faiblesses et qui couvre tes incapacités, qui te croit en toi et ne te disqualifie pas quand tu fais une erreur, mais au contraire, te relève et te dit, poursuis. Poursuis la voie de la justice. Reprends-toi. Amen. On a chaque année ici, au niveau de la mission, de la vision, on a chaque année ici, on donne une formation de 6 semaines où c'est Benoît et son équipe et sa femme et sa cellule, en fait, il y a beaucoup de monde qui est impliqué pour donner la formation sur l'introduction de la chapelle chrétienne. De où qu'on vient? C'est quoi notre mission? C'est quoi notre vision? Qu'est-ce qu'on porte? Et comment on va le porter? Ça, c'est important. Comment qu'on va le porter? On est une famille, on devrait avoir une culture familiale. Il y a bien des gens qui disent, écoute, ça, je le sais que c'est ta sœur. Elle me ressemble. Mais non seulement elle me ressemble, mais mes nièces disent, écoute, c'est une copie conforme, c'est ma mère au masculin. Les mêmes tics, les mêmes signes, les mêmes grimaces, les mêmes dictons, les mêmes... Et j'ai l'impression que je parle à ma mère, mais... un modèle masculin. Mais c'est ça, la même famille, c'est qu'il y a quelque chose qui nous teint, il y a quelque chose qui nous amène à devenir un seul corps, une même famille. Et ça s'appelle les valeurs qui vont constituer cette famille ici. Qu'est-ce qu'on porte? Comment que Dieu a voulu qu'on porte son amour pour la ville, cette église? Et à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à donner des stratégies. Il a commencé à investir notre famille de valeurs qui est propre à notre famille, mais qui n'est pas nécessairement contradictoire avec les autres familles, mais au contraire, fait en sorte de montrer la diversité et le besoin de travailler avec les autres familles. J'aime beaucoup l'Église universelle. J'aime beaucoup recevoir l'onction des autres familles. Et je suis une personne très soumise. Je me mets et je dis, cool, enrichis-moi, puis moi je vais faire la même chose avec toi. Et il y a quelque chose de beau quand on voit le corps en action. Et j'aime les onctions qui sont différentes aussi. Il y en a des églises qui vont voir peut-être au niveau de l'enseignement ou des choses bien spécifiques, des ministères bien spécifiques. Mais ça reste, on est content pour cette maison, puis on se réjouit. Puis si on peut, on y va, puis on reçoit. Mais on veut devenir aussi une source d'exhortation puis une source d'encouragement pour les autres. Fait qu'il faut prendre au sérieux le mandat que Dieu nous a donné. Pourquoi c'est important de marcher avec une même vision, une même mission? Premièrement, ça nous permet de comprendre les plans de Dieu. Ça permet de découvrir qu'on est des fils et des filles. La famille identifie notre identité. Je m'en vais travailler, mon patron, je ne me sens pas fils. Parce qu'il ne me parle pas comme un fils. Mais dans l'Église, je devrais premièrement ressentir que je suis un fils et un père aussi. Je voudrais que ce soit pour mon cœur qu'on m'aborde et non pas pour mon potentiel. Je voudrais qu'on m'aborde parce que je suis précieux aux yeux des gens et non seulement parce que je peux leur donner quelque chose, mais vice-versa aussi. Il doit y avoir un lieu où on peut vivre, où notre identité est reconnue avant tout. Nous permet de développer notre potentiel, nous permet d'agir sous la puissance de l'amour de Dieu et amène la guérison, la délivrance, la restauration. Et c'est ça qui est le fun. Parce que nous, on ne se regarde pas à travers nos chairs et nos manquements, on se regarde à travers Christ, mais à travers Christ, on voit aussi comment que Dieu nous regarde et comment Dieu nous voit. Quand Dieu nous révèle qui est celui qui est en face de toi, tu déclares sur sa vie des choses merveilleuses. Tu mets en lumière peut-être des choses qui avaient besoin d'être confirmées, mais tu mets en lumière peut-être des choses qu'il n'était même pas conscient qu'il y avait, mais que ça brûlait profondément dans son cœur. Et tu commences à relâcher des aptitudes où cette personne-là peut-être tout le temps combattue d'un esprit de rejet, mais devient avec un cœur de père, capable de rassembler parce qu'il est guéri, parce que Dieu a mené une restauration. Peut-être la disqualification, peut-être plein de choses, peut-être des peurs qui sont difficiles à vaincre. Le Seigneur vient relâcher une guérison à l'intérieur. Le royaume de Dieu s'agrandit. Et ça, c'est important. Le royaume s'agrandit pas à cause de la puissance, pas à cause de la bénédiction. S'agrandit parce qu'il y a des nouveaux héritiers. Le royaume de Dieu s'agrandit parce qu'on élève de nouveaux héritiers. Je le répète encore. Le royaume de Dieu s'agrandit parce qu'on élève des nouveaux héritiers du royaume. Ça n'enlève rien à la puissance, à la bénédiction, au contraire. Mais il faut savoir où qu'on peut amener. Plus la personne est consciente de ce que Dieu lui offre, et plus cette personne-là va jouir de la grâce qui est offerte. C'est important que cette personne-là comprenne quelle est l'œuvre qui a été faite sur sa vie, quelle est l'importance du salut sur sa vie et quelle est l'importance du sang qui a coulé sur la croix pour sa vie. Il était libéré de quoi? D'une maladie? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le péché dans ta vie? Libéré du péché, ça veut dire quoi? J'avais une situation problématique, Dieu est venu arranger, ça s'est réconcilié, je continue ma vie comme avant. On change de royaume. On passe d'un royaume où la mort est tout ce qui relie et qui assemble à un royaume où la liberté amène la vie éternelle. C'est totalement deux royaumes différents qui opèrent d'une façon très différente. Et c'est important pour embarquer dans ta nouvelle vie, pour embrasser ta nouvelle vie, il faut que tu comprennes que les valeurs ont changé. Ce que tu poursuis est complètement différent de ce que tu as appris depuis ta jeunesse. On appelle ça du renouvellement d'intelligence, mais aussi, tu es une nouvelle créature. Je suis en train de dépasser mes affaires. 1 Timothée. 1 Timothée 2,5 qui dit « Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, un seul médiateur, un seul chemin pour se rendre à Dieu. » Ce n'est pas les diseuses de bonne aventure qui vont te révéler qui est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton horoscope. Ce n'est pas non plus ceux qui ont vécu parmi nous. Ils ne sont pas des médiateurs. Ton grand-père, ta grand-mère, ta mère et ton père, peu importe l'affection que tu lui donnes, il n'y a pas le pouvoir de venir diriger ta vie. Mais par exemple, sachez qu'il y en a un qui prend avantage de ses mensonges pour venir corrompre votre vie. Il y en a un qui se prend pour un ange de lumière, mais qui vient par les faussetés. Dieu nous met en garde. N'allez pas, consultez pas les morts. Ne consultez pas les magiciens puis les devins. Parce que leur esprit n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle de moi et tous les autres esprits ne me connaissent pas. Ils ne parlent pas de moi. Nul ne peut aller, c'est le salut, c'est exactement cette réalité. Nul ne peut aller à Dieu pour obtenir la vie éternelle s'il ne confesse pas de sa bouche que Jésus est Sauveur et Seigneur. Sur sa vie, tu es mon Sauveur et tu es mon Seigneur. Tes pensées vont devenir mes pensées. Tes désirs vont devenir mes désirs. Tes objectifs vont devenir mes objectifs. C'est quelque chose. Ça a pris pratiquement 3 ans pour éduquer les disciples de Jésus à le suivre lui. Fait qu'il y a une formation de disciples qui doit s'inscrire dans celui qui rentre dans sa nouvelle vie. C'est apprendre à marcher avec Jésus Sauveur, ça n'a pas de problème. Tout le monde est prêt. Viens me sauver, je suis dans le trouble. Jésus Seigneur, par exemple, ça demande de l'obéissance, puis ça demande volontairement de décider de suivre et de comprendre pourquoi tu suis. Dieu ne nous a pas appelés à être des petits pantins qu'on manœuvre comme ça. Il veut faire de nous des héritiers. Tout ce qu'il sait, il veut nous l'enseigner. Il veut qu'on règne avec lui. Voulez-vous avoir une gang d'incompétents avec vous en train de gérer vos affaires? Non, Dieu non plus. Ce que vous avez appris, ce que la religion vous a appris, est-ce qu'il est en accord avec ce que la parole dit? Peu importe ce que je vous dis ce matin, c'est une parole d'homme. Peut-être que le Saint-Esprit va utiliser des brides pour venir assez des choses, mais si vous ne cherchez pas la face de celui qui vous a appelé, et si vous n'êtes pas à l'écoute du Saint-Esprit, vous allez suivre des hommes. Et vous ne serez jamais capable de bâtir l'unité de l'Église. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous bâtissons. C'est par l'Esprit qui est en nous que nous pouvons bâtir l'unité. Dans la chair, c'est impossible. On n'a pas la connaissance de pouvoir travailler. On n'est même pas capable de se définir nous-mêmes au niveau des dons ou de notre appel. Il faut que le Saint-Esprit le déclare. On parle de d'autres choses, non? Moi, j'ai travaillé dans une équipe en sécurité, on l'appelait le Dream Team, mais c'est loin de l'Église apostolique. Je n'ai jamais confondu cette équipe-là avec celle qui est dirigée par l'Esprit. Dans cette équipe-là, il y avait quand même quelque chose de qui était en cheminement parce qu'il y avait au moins une personne qui était dirigée par l'Esprit. Et je prophétisais puis je priais pour mes collègues de travail. Et j'investissais dans leur vie l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on est devenu un Dream Team. Parce qu'il y avait quelqu'un qui rentrait, peu importe ce qu'il avait vécu, peu importe ce qu'il en était, lui était tout le temps en train d'allumer l'amour. Je n'arrivais pas avec mes mauvais comportements et je n'arrivais pas avec mes mauvaises attitudes. Parce que je voulais être comme Jésus. Mais j'ai appris. J'ai appris parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que cette attitude-là est inférieure au royaume ou elle reflète le royaume? Facile. Je suis capable de facilement de séparer de ce qui est vil de ce qui ne l'est pas. Là. Tu rentres et lui, il a une promotion, moi, je ne l'ai pas eu. C'est-tu une attitude qui reflète le caractère de Christ? Non. OK. Qu'est-ce que Christ aurait fait? Il aurait été content. Réjouis-toi. Mais il y a des croyants qui n'arriveront jamais à se réjouir d'une promotion d'un autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de formation de disciples. Il n'y a jamais eu des gens qui voulaient investir l'amour de Christ dans leur vie. Il faut entendre la parole de sagesse. Il faut que tu sois enseigné, mon fils. Si tu aimes l'intelligence, si tu aimes la sagesse, élève la voix et tends l'oreille. Je vais envoyer vers toi ceux pour te de modeler, mais il faut que tu te mettes dans une disposition. Allez, je sors de mes notes, ça n'a pas de bon sens. OK. Premièrement, Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, croire de tout notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, afin que par sa mort, nous puissions être ressuscités avec lui. Dieu a fait de lui un pont, un marchepied qui nous a permis de passer de la mort à la vie. Ça, c'est tangible comme ça. C'est pas une idée de même. Cependant, c'est comme n'importe quoi. C'est que tu passes d'un monde visible à un monde invisible. La seule façon que tu vas pouvoir permettre de dire authentiquement, j'ai passé de la vie à la mort, c'est quand tu vas passer de la vie à la mort. C'est pas parce que tu n'as entendu parler, c'est quand que la vérité va affranchir ton esprit, ton être tout entier. J'étais mort, maintenant je suis vivant. Vous vous souvenez du témoignage de l'aveugle qui, où les pharisiens et les scribes étaient là en train de dire, « Ouais, mais celui qui t'a guéri, c'est qui? » Je ne sais pas c'est qui celui qui m'a guéri, mais j'étais aveugle puis maintenant je vois. Fait que, tu sais, organisez-vous avec ça, là. Moi, tu sais, je ne commencerai pas à faire le débat de personne, là. Mais je sentais un vide incroyable et Jésus m'a rempli ma vie. Ma vie a changé. Mon regard a changé. Mon intelligence a changé. Mes capacités ont été transformées. Ce plein-là est actif et vivant. Cet esprit-là est vivant. Elle me parle. Elle me dit, « Tu pourras faire mieux le grand. Laisse-moi danger. Viens, je veux te parler. J'ai quelque chose à te révéler. Parce que là, tes émotions parlent plus fort que ma voix. Viens, on va se donner du repos puis on va faire un petit talk face à face parce que j'ai besoin de te coacher dans cette situation-là. Le Saint-Esprit, c'est ça que ça fait en dedans. Il faut apprendre à marcher de cette façon-là. Ça a pris du temps. Est-ce que moi, j'étais une tête dure? Puis il m'a dit, de quoi, là? Le Seigneur me disait, ouais, j'aimerais ça faire ça. Il n'avait même pas le temps de dire ce que je voulais faire. J'étais déjà parti. J'avais tellement confiance en mon potentiel. Parce que je voulais prouver à tout le monde que je n'étais pas un petit vaurien. Mais le Seigneur a voulu qu'il guérisse ça. Il disait, wow, viens ici. Et nous, je revenais tout le temps, mais par l'autre porte. Je revenais tout découragé. Il disait, il n'y a pas personne qui veut, ça ne marche pas tes affaires. Mais c'est ça, il y a un temps de transformation où il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut apprendre à écouter avant de commencer à déménager quoi que ce soit ou à faire quoi que ce soit. Et dans l'Église, j'ai appris ça. J'avais des super de bonnes idées pour Marcel et pour l'Église ici. Et j'arrivais, mais d'un autre côté, de dire je construisais des choses qui n'étaient pas encore dans le temps. L'idée, c'est que j'étais en train de bâtir un cabanon dans la cuisine. Parce que j'avais aucune idée de ce que c'était la vision de l'Église. Et moi, je l'ai bâti, fait que j'interprétais mes affaires puis je les imposais. De dire, c'est super que tu viennes m'aider. Mais là, tu n'es pas en train de m'aider, tu es en train de me nuire. Mais c'est ça, si tu ne prends pas ce que je veux, mais c'est ça, tu sais. C'est ça, il a fallu apprendre. Mais il a fallu que je comprenne un jour, de dire, c'est quoi la vision de cette Église? C'est quoi les paroles? C'est quoi le but? Vous me suivez ce matin? J'espère, parce que je suis pas sûr de me suivre, moi. Passer de la mort à la vie. C'est important de comprendre la condition dans laquelle vous étiez si vous voulez embrasser la nouvelle condition qui vous est offerte. C'est par la repentance du cœur. C'est pas, je m'excuse, c'est plus que ça. La repentance, c'est littéralement, tu marches dans une voie et tu tournes et tu pars d'un sens contraire. Tu marchais avec tes propres pensées, tes propres valeurs, tes propres émotions et Dieu dit maintenant, je vais mettre en toi des choses nouvelles. Ce qui est ancien est passé maintenant, toute chose va être nouveau. Fait qu'il faut que tu apprennes à faire les choses différemment. Et ça demande aussi un renouvellement d'intelligence. Christ, Jésus était l'unique solution pour la vie éternelle. Ce n'est pas nos œuvres. On a souvent tendance à dire, je vais faire ça, Dieu va être content. Mais Dieu est content quand tu fais ce que lui te demande. Ce n'est pas non plus parce qu'on fait, je me semble que j'ai arrêté de pécher. Je devrais être capable de passer quand la porte va se fermer. Ça ne passe pas, mais après la semaine de jeûne et prière, ça va passer, je te garantis. Là, c'est serré un peu, mais après la semaine de jeûne. Tu vas pouvoir passer même si la porte est fermée. Passe en dessous. Libéré de quoi? Libéré de cette condamnation-là. Mais vous savez, quand les cœurs sont endurcis, quand que l'esprit est renfermé sur soi-même. Je vous demande juste de rester un esprit ouvert, juste de comprendre, là, sans juger personne, mais est-ce qu'on, quand on a le cœur endurci et l'esprit fermé, centré sur nos blessures, nos enfants, est-ce qu'on n'est pas conscient souvent du mal qu'on fait? Qu'on blesse les gens autour de nous parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait. On est comme un éléphant qui rentre dans une boutique de percerie puis on ne se rend pas compte qu'on est en train de tout démolir. Porcelaine. On ne se rend pas compte qu'on est en train de tout démolir parce qu'on est tellement centré sur nous. Mais quand que Christ vient et commence à montrer notre véritable nature, on prend conscience de tous ces comportements-là qui blessent, de tous ces comportements-là qui, au lieu d'amener la justice du royaume, amènent encore la justice de division. On se permet, parce que telle chose, de dire, on juge, on condamne au lieu d'amener la grâce et au lieu de voir l'œuvre que Dieu pourrait faire, on repousse les gens au lieu de les prendre puis de les amener au royaume. Puis on se justifie. Moi, je n'ai pas enduré ça dans ma vie. Puis on s'en vient, puis on est là, puis on est très dur, puis on est très catégorique. Mais est-ce qu'on est conscient que si Christ aurait vu juger notre vie sur ce point-là, qu'aucun de nous serait là? Lui, il était parfait. Il est descendu auprès de gens imparfaits parce qu'il y avait en lui une vision parfaite de nous. Et que nous n'ayons pas cette vision parfaite de nous, c'est injuste. Et je crois que cette vision-là imparfaite, c'est ce qui nous prive de la gloire de Dieu. Et c'est sur notre choix, c'est délibérément notre choix de choisir de ne pas vouloir connaître quelle est notre véritable nature. L'ignorance peut devenir un péché. L'ignorance peut devenir un péché à même titre qu'une personne qui ne veut pas entendre le bon sens. Mais, vous savez, je ne suis pas en train de dire qui va aller au ciel ou qui ne ira pas au ciel, qui va perdre son salut ou pas. Moi, je suis en train de vous dire, la repentance, ça vient du cœur. Il faut savoir comment notre cœur fonctionne pour ne pas se laisser détourner par un mauvais cœur. Dieu dit, sonde ton cœur parce que ton cœur est tortueux. Il peut te tromper. Fait que sonde ton cœur. J'aime avoir des gens qui m'entourent, qui sondent mon cœur. C'est-à-dire, ce qui sort de ma bouche, tu devrais être capable d'aller creuser, parce que c'est de mon cœur que de la bouche parle. Fait que de dire, écoute-moi attentivement. Si ce que je dis reflète la parole de Dieu. Et on fait des alliances comme ça, pour qu'on s'assure que la repentance soit au centre de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on accroche à tout ce qui se passe. L'amour couvre beaucoup de choses parce que le Saint-Esprit nous dit des fois, « Attends, là, il a grandi, il ne peut pas manger un steak, là, il y a 2 semaines de vie chrétienne. » Mais par exemple, ce serait normal qu'il lâche le biberon après 10 ans de vie chrétienne, par exemple. Le royaume de Dieu, c'est un endroit qu'on peut seulement rentrer et accéder par le sang de Christ. Et ce sang-là doit couler perpétuellement sur notre vie jusqu'au jour qu'on soit rappelé à lui. Mais sur la terre, il faut que le sang coule continuellement. Et ce que vous devez enseigner, c'est comment que le sang coule sur votre vie. Et ce que vous devez apprendre, c'est comment faire que le sang coule tous les jours sur ma vie. C'est constamment regarder le royaume de Dieu à travers la réalité de ce que Christ nous a offert. La vie avec Jésus, c'est... Tu sais, au Québec, on est très religieux. On a une conception de la spiritualité très religieuse, où on a abordé souvent la spiritualité à travers des artifices spirituels, je voudrais dire. Tu vas brûler 2-3 lampions, tu vas faire 2-3 Saint-Louis-Marie, tu vas t'en aller, et toutes ces choses-là, c'est toutes des choses, dans le fond, qui vous mettront jamais en relation avec Dieu. Ces choses-là ne peuvent pas être alimentées par le Saint-Esprit. Fait que vous allez vivre une genre de religiosité, mais qui n'est pas axée sur une relation véritable et authentique avec Jésus. Jésus parle et on entend sa voix. Son esprit nous révèle les choses qu'on doit savoir. Et ça, c'est tangible comme une relation que j'ai avec n'importe qui. Et c'est une des premières choses que j'ai apprises. dans mon mariage, c'est qu'il faut que le Saint-Esprit parle plus fort que ma femme. Parce qu'il faut que je sois capable de moi, d'être en mesure de l'aimer, non pas en fonction de ce qu'elle fait, de la chérir, non pas en fonction de ce qu'elle fait, de l'honorer, non pas en fonction de ce qu'elle fait, et de la sécuriser, non pas en fonction de ce qu'elle fait, mais parce que j'ai été à l'hôtel pour élever et m'engager. Le Saint-Esprit dit « Hey, Tipit, elle t'a pas mis un gun sur la tempe là, pour t'engager, là. Fait qu'honore ta parole. » Mais ça, il faut que le Saint-Esprit me rappelle à l'ordre. Parce que ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait, elle, c'est selon, c'est avec Dieu qu'elle va dealer. Mais moi, c'est avec Dieu que je deal cette alliance-là. Et vous savez quoi? Parce que je laisse un royaume de Dieu agir, parce que ma femme fait la même chose, on grandit. Et on découvre l'amour comme on n'a jamais découvert. On découvre la complicité comme jamais on a découvert. On découvre des aspects du mariage qu'on ne savait même pas qu'existaient. On a une capacité de développer les promesses de Dieu dans nos vies. Écoute, je comprends quand Dieu dit à Adam, il dit, je vais te donner quelqu'un qui va te supporter, qui va te compléter. La Bible a dit que il y a la racine du mot qui dit, on a pris une côte d'Adam, mais en fait, le vrai mot, c'est de dire, on a pris la moitié d'Adam. La vraie définition, c'est qu'on a pris la moitié d'Adam. Pas, on a pris le côté d'Adam. Ce n'était pas nécessairement un os, c'était littéralement, le mot veut dire comme prendre la moitié de la racine du mot. On a pris la moitié d'Adam, on a collé la moitié qui est à Ève pour qu'ils deviennent une seule chair, une seule personne, le même esprit, même corps, même âme. Et à partir de ce moment-là, ce que toi tu vas penser, ce que toi tu vas voir, va être révélé par le Saint-Esprit dans cette alliance-là pour faire descendre le royaume. Le mariage, c'est la réalité la plus proche du royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir rien sur terre qui ressemble le plus au royaume de Dieu que le mariage. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé l'œuvre avec ça. Faisons l'homme à notre image, puis il a mis dans le jardin un homme et une femme. Il dit, maintenant, étendez le royaume. Et l'Église, Jésus a pris l'Église, puis il l'a remis sur le même modèle que le mariage. Voici ma fiancée. Je suis l'époux et voici ma fiancée. Parce que cette même alliance-là a le même but pour le royaume de Dieu, amener toutes choses conformes au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Conformes, amener toutes choses conformes à lui. Conformes, ça veut dire identique. Ça, c'est ce qui alimente nos pensées du matin jusqu'au soir. Accomplir la volonté de Dieu, c'est d'amener tout ce qui nous entoure à être conforme au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Je ne l'ai pas là. En tout cas, je l'ai tantôt, mais dans Jean 17, 21, qui dit, « Pour qu'on soit tous un, comme moi je suis en toi, et qu'eux soient un en nous, en moi, pour que le monde sache que l'amour que tu m'as envoyé, c'est l'amour véritablement qui vient de toi. » Comment bâtir cette unité-là, c'est un défi. Humainement parlant, c'est impossible, mais spirituellement parlant, tu l'expérimentes à travers des situations comme le mariage, comme dans l'Église. Et à partir de ce moment-là, tu apprends à comprendre comment que Dieu unit son corps et comment que Dieu unit les familles et comment que Dieu fait son œuvre pour étendre le royaume. Vous savez, une des choses les plus importantes lorsqu'on forme un disciple ou qu'on est formé comme disciple, c'est la sanctification. Pourquoi la sanctification est si importante? Parce que c'est le sang de Christ qui lave et qui permet au Saint-Esprit de prendre place. Tant aussi longtemps que l'Esprit Saint n'a pas nettoyé, l'Esprit Saint ne campe pas dans un temple qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Et dans notre temple qu'on est, il faut qu'il prenne possession de toutes les chambres qui habitent ce temple. Et tant que le sang n'a pas couvert une chambre, bien, le Saint-Esprit ne peut pas se rendre là. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas là pour nettoyer, lui, il est là pour activer la volonté de Dieu. C'est le sang de Christ qui nettoie, qui permet d'ouvrir la porte de certaines places dans nos vies. Et qui permet. Donc, si la sanctification n'est pas sous notre mariage, ça va être très difficile de laisser le Saint-Esprit agir. Si la sanctification n'est pas là à propos de notre identité, ça va être difficile que le Saint-Esprit puisse développer notre identité. Même chose pour notre travail, peu importe ce que vous faites. Si vous ne sentez pas qu'il y a de la puissance qui se révèle dans ce que vous êtes en train de faire, c'est parce que vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit. Donc, retournez à la puissance que vous avez toujours, la puissance de la sanctification. Retourner et dire, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas d'autorité sur cette telle affaire? Parce que le Saint-Esprit ne me révèle rien et j'essaie de l'amener là, puis il ne veut pas y aller. C'est parce que même si le Saint-Esprit accomplirait ce que tu demandes, toi, en étant là, puis en continuant tes mauvais comportements, tu vas reminer encore ce lieu-là. Puis tu vas avoir la prétention de dire que le Seigneur a ouvert ça en plus, comme si tu donnais une mauvaise image au royaume de Dieu. Fait que remercie le ciel, que le ciel n'obéit pas à tout ce que tu dis. Tu pourrais le corrompre. Et gloire à Dieu, je ne me ferais pas taper ses doigts. Au moins, j'ai de la puissance seulement quand j'obéis. Mais c'est ça, il y a toute une notion importante dans pourquoi qu'on a... C'est quoi la réalité de notre nouvelle naissance? De quoi nous avons été sauvés? Qu'est-ce que c'est la réalité des ténèbres et de la mort dans nos vies? On doit comprendre, sinon on livre un mauvais combat. Beaucoup de croyants, vous savez, vous connaissez, Jésus a donné une parabole concernant la semence et les mauvaises terres. Il y a des terres arides, il y a des corbeaux, il y a des épines, il y a le soleil qui assèche, mais ce sont toutes des choses, dans le fond, qui ne changent rien en semence. C'est la terre le problème. La semence, elle va tomber. Et ce que je vais vous dire, c'est que je ne m'empêcherai jamais, ou personne de vous, j'espère, ne s'empêchera jamais de lancer la semence. Mais ce que Jésus disait, c'est de dire, assure-toi, non seulement de lancer la semence, mais assure-toi que la terre soit propice à la recevoir. Prends la responsabilité d'aussi de la terre. Si tu veux étendre le royaume, c'est la terre qui va faire en sorte d'accueillir le royaume, la semence. La mission. Quelle est la mission de la chapelle chrétienne? Pas seulement en 2020, avant même la fondation du monde, c'était déjà là. C'est la grande commission que Jésus nous a donnée. Nous, on l'a traduit par étendre l'amour de Dieu en faisant du Haut-Richelieu et du Québec des disciples de Jésus-Christ. Ça, c'est notre mission. Partout sur la planète, c'est juste le nom des villes qui va changer. Mais c'est la même mission. Dans Matthieu 28, 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, la vision, ça c'est la mission. La vision, c'est comment que Dieu va faire en sorte qu'on va transmettre. Il y a une stratégie. Quand vous lisez la parole, vous réalisez qu'il y a beaucoup de stratégies que Dieu donne. Le peuple juif n'a pas toujours combattu avec les mêmes stratégies de combat. Ils ont dit des fois, le Saint-Esprit, le Seigneur leur donnait une directive, puis ils faisaient les choses en fonction de la directive qu'ils avaient reçue. Jéricho, il a tourné 7 fois l'entour de la ville, puis ils ont lancé un grand cri, les murs ont tombé. Même chose pour Jésus. C'est difficile à suivre parce que les gens, ils disent, OK, là, il crache à terre, il prend de la boîte, met ça à ses yeux. Puis là, les disciples essaient de faire la même affaire, ça ne marchait pas. Puis ils disent, ouais, comment ça? Puis ils disent, il faut que tu sois à l'écoute. C'est pour la gloire de Dieu qu'on fait les choses. Ce n'est pas toujours la même façon. Il faut que vous soyez capable de discerner. « Oui, mais Seigneur, on prie et on n'est pas capable de délivrer. » C'est parce que ça prend le jeûne et le discernement. Il faut avoir une révélation plus grande que qu'est-ce que vous voyez. Le problème, ce n'est pas la maladie ou la situation. Le problème, c'est intérieur, c'est ultérieur, je veux dire. À la situation, c'est peut-être un lien générationnel, c'est peut-être un esprit mauvais aussi. Donc, il y a une façon d'apprendre la vision. Dieu donne des visions au corps pour qu'on puisse ensemble travailler en unité. La vision de cette Église, c'est transmettre aux générations la passion et l'amour de Jésus-Christ afin d'investir notre société de la vérité et de la justice du règne de Dieu. Investir, transmettre, littéralement de dire « je vais déverser » parce que l'Église, activée par les dons de l'Esprit, se transmet comme des vases communicants. ce que j'ai reçu, je te le transmets. Parce que ce que j'ai reçu pour l'édification de l'Église. Donc, je ne le prends pas pour essayer de me faire un nom, me faire un titre. Je le prends pour que toi, tu puisses connaître encore davantage l'amour de Dieu. Jésus parlait de la lumière. Non seulement on veut le faire dans l'Église, mais on veut aussi que nos dons servent pour les gens à l'extérieur de l'Église. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? T'sais, comment je vais pouvoir profiter de ces gens en disant, « Oh Seigneur, a parlé le Dieu d'Éternel sur le mont Sion, mais change tes mots puis prophétise différemment. » Mais les gens du monde ont besoin de voir qui habite en nous et comment que Jésus les voit, eux. Jésus a parlé à ses disciples en disant, vous êtes la lumière. J'aurais parlé de nouveau, j'ai dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière dans la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Dans Matthieu 5, 14, 16, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous savez, il y a deux notions à cette lumière. La première, c'est que les gens devraient être éclairés. C'est à travers nos valeurs, c'est à travers ce qu'on porte, l'amour qu'on porte, la paix qu'on porte, mais surtout à travers les valeurs qu'on porte. Les valeurs sont des fenêtres ou des portes qui permettent à la lumière intérieure de reluire sur le monde extérieur. Lorsque les gens s'approchent de votre maison, s'approchent de qui vous êtes, les fenêtres qui sont vos valeurs devraient resplendir sur eux. La lumière. Ils devraient ressentir l'amour de Jésus. Et quand ces gens sont là de dire, hey, cette maison est éclairée, on va aller voir ce qui est clair, qui rentre, puis regarde à travers ces fenêtres, à travers vos valeurs, ils devraient voir Jésus. Et c'est là que ça devient important de peaufiner nos valeurs, de peaufiner la façon qu'on fait les choses. Nos valeurs à l'Église. Il y a 6 valeurs que je crois que, en tout cas, je travaille fort, puis on travaille fort, puis toute l'équipe, on travaille fort, mais c'est vraiment individuel qu'on prend le mandat de ses valeurs. Je ne peux pas demander à l'autre de le faire en disant, mais commence par le faire, je vais le faire ensuite. On répond à ce que Jésus nous demande, mais ces 6 valeurs reflètent le caractère de Jésus. Et je crois que c'est important qu'on puisse les porter, parce que nous avons toute la responsabilité de bâtir l'unité de cette Église. Nos émotions, nos sentiments et notre façon de penser, nos valeurs, doivent bâtir l'unité de cette Église. Amen. La première valeur. Avant d'aller plus loin, Jésus parle de prescription. Enseigne-leur ce que je vous ai prescrit. Je crois que ces 6 valeurs sont ce que Jésus avait prescrit à ses disciples d'enseigner. La première, bâtir l'unité par des liens solides basés sur la confiance, la vérité et l'intégrité. C'est votre responsabilité de faire en sorte que les gens s'appuient sur vos valeurs. Parce que votre tâche à vous, c'est d'amener toute chose conforme à Christ. Vous avez la responsabilité, partout où vous êtes, de faire en sorte de bâtir des relations, de bâtir sur la confiance. « Ouais, mais lui, il n'est pas chrétien, justement, encore plus. » Lui, il part avec encore moins de stock que toi. Fait que sois un bon allié pour lui. Les gens aiment être aimés. Les gens aiment être exhortés. Les gens aiment savoir que tu les apprécies. Et ça, c'est quand tu regardes à travers l'amour de Christ et que tu dis, « Seigneur, donne-moi ton cœur. Je m'en viens vers toi. J'ai besoin que ton cœur vienne dans mon cœur. Parce que mon cœur, moi, est insuffisant parce que je ne connais pas ces gens. » Mais toi, tu les connais et je veux te laisser ma vie pour communiquer ton amour à eux. Ce n'est pas toujours facile de se retrouver dans des places où ce que tu dis, maintenant, je suis ici et ce matin, je vais vous gâter de ma présence. parce que j'ai décidé d'avoir une parole de bénédiction pour chacun de vous. Tu n'as pas reçu un diplôme pour ça? Il y a des pensées contraires au royaume. De rentrer dans un environnement, de dire « qu'est-ce que les gens vont penser de moi? » Moins que j'en dis, mieux que je vais avoir de l'air. Tu sais, je vais, tu sais, c'est quand je commence à parler qu'ils savent que je ne suis pas intelligent. Tu sais, je vais essayer de faire le moins possible. Je vais rester dans mon coin. Et ça, c'est un esprit de crainte et un esprit de timidité. Et ça est contraire au caractère de Christ. Donne-moi la force de briller. Donne-moi la force de savoir que moi, avec ce que je porte, c'est important qu'eux le sachent. Parce que c'est pour les bénédictions, c'est pour restaurer leur vie, c'est pour guérir leur vie. D'avoir cette force-là dans toi, ou que tu arrives dans un lieu et tu n'as pas l'impression que ce lieu-là est là pour te dominer, puis te manger, puis tu es rempli de crainte. Non, tu es là pour élever ce milieu-là. Parce que le Seigneur te donne la capacité de voir à travers ses yeux. Jésus, partout où il allait, il buildait le monde, il buildait tout, il monte, il construisait tout. Mais est-ce que Jésus s'est déjà senti qu'il n'était pas à une place à quelque part, qu'il n'était pas à sa place? L'as-tu déjà vu dans un coin en position fœtus en train de dire « Oh, ils veulent tout me tuer? » Non. Il dit premièrement, vous n'allez pas me tuer. Je vais donner ma vie. C'est moi qui décide de donner ma vie parce que c'est l'autorité que le Père m'a donnée. En tout temps, je peux me sortir de là et retourner en haut, puis mon Père va m'aimer pareil. Mais j'ai décidé que vous deviez connaître l'amour de mon Père. J'ai décidé que je ne serai jamais heureux et épanoui si je n'accomplis pas la volonté de mon Père. Et c'est pour ça qu'on rentre dans des milieux. C'est ça les valeurs qui nous construisent. C'est que la révélation de ce qu'on connaît du royaume de Dieu mérite qu'on donne notre vie pour l'étendre. Parce que plus vous étendez le royaume de Dieu et plus vous êtes nourri du royaume. Plus que vous étendez la paix et plus vous êtes nourri de la paix, parce que ça passe par vous pour aller par eux, par là. Plus que vous amenez la joie, plus que vous êtes nourri de la joie, plus que vous amenez l'assurance, plus l'assurance vous habite. Ce qui coule de votre vie, c'est des fleuves d'eau vive, mais c'est le Saint-Esprit qui fait couler ces fleuves d'eau vive-là pour aller vers l'extérieur. Donc, tu veux de la paix, bien, étends la paix. Tu veux de l'amour, étends l'amour. Active. Et ça, c'est la valeur, c'est de dire, je ne m'attends pas à ce que les autres vont faire. Voici ce que moi, je m'engage à faire. Ça, c'est la première valeur. Je m'inscris à bâtir. Je suis un bâtisseur. Tu me vois, tu me sers la main de dire, si tu bâtis avec moi, on va faire une alliance. Demande-toi pas ce que mon horaire va faire. Mon horaire est en fonction de bâtir le corps de Christ et de bâtir le royaume. J'ai pas d'autre projet que ça. Il n'y a rien qui m'a donné plus de joie, de paix, d'amour et de révélation de savoir qui je pouvais faire et le potentiel que j'ai que depuis que j'étends le royaume. Je n'irai pas me remettre dans une place que je passais tout le temps pour un disqualifié et un moins que rien. Le monde me ferait ça. Le monde ne voulait pas savoir qui j'étais, voulait juste savoir ce que je pouvais leur apporter. Mes patrons, c'est de dire, travaille puis fais ta job, sinon je te claire. Et il y avait pas, s'il y avait du potentiel à me donner, c'est pour, je devenais plus rentable. Là. Et c'est correct. Je ne peux pas m'attendre à quelqu'un qui n'est pas rempli du royaume de Dieu, qui déverse dans ma vie la réalité du royaume de Dieu. C'est là où ce que Jésus, le verset 17, qui dit, je l'ai lu, je vais passer à l'autre. Tous connaîtront, Jean 13, 35, qui dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Cet amour-là, ce n'est pas notre amour. C'est l'amour que lui a mis dans nos vies qui nous permet de communiquer comme des vases communicants. Et on rajoute des nouvelles personnes dans ces vases communicants-là et ces gens-là apprennent à connaître l'amour du royaume. Deuxième valeur, une amour et une passion engagée pour la famille, l'Église et la communauté. Vous savez, c'est un objectif dans lequel le matin, c'est véritablement ça, c'est de dire qu'est-ce que je fais pour que ma famille puisse rentrer dans son héritage? Qu'est-ce que je fais pour que mon Église puisse rentrer dans les promesses que Dieu lui a données? Qu'est-ce que je fais pour que ma nation, ma ville, soit remplie de la présence de Dieu pour que mes enfants puissent grandir dans un lieu qui va refléter le royaume? Le plan de match est grand. Dieu est grand. Dieu n'a pas besoin d'avoir une armée qui dépasse toutes les armées, celles de la planète. Il a juste besoin d'avoir un homme qui décide d'accomplir sa volonté. Il va commencer à agir. Il y a des gens qui vont répondre à son appel. Jean-Baptiste, il criait dans le désert, mais il a quand même ébranlé les oreilles des rois. Hérode t'a fatigué parce que l'autre disait, là. Puis ses filles aussi, là. Mais pourtant, lui, il criait dans le désert, en peau de chameau puis en mangeant des sauterelles. D'ailleurs, tu peux te dire que c'est la personne la moins innocente qu'on connaît. Il n'est même pas au centre de la ville. C'est au moins, il serait à la place publique, même pas. Il est dans le désert. L'esprit qui sort de votre bouche va changer l'atmosphère. Et la puissance de votre prière, la puissance de révélation que Dieu va vous donner, va vous permettre de prendre des combats qui sont au-delà de vos capacités. Je vais juste vous amener à dire, on est une société de consommation. Si vous avez étudié un peu dans la publicité, vous avez étudié un peu dans sciences politiques, vous avez étudié un peu dans la société des finances, vous réalisez que les valeurs qui sont là, à rien pour amener le nom de Dieu, là. C'est absolument, là, c'est complètement contré de l'attaque, là. Puis la pensée qui anime tout ça, c'est des pensées qui sont là même pour amener justement une pensée qui vient directement, tu sais, du royaume de l'enfer, une pensée de mort. Vous dites, c'est pas si pire, tu sais, dans le fond, c'est une société, dans le fond, qui met le bien-être, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'atteindre, ce bien-être-là, qui est désastreux? On est une société où les gens ont perdu la paix, où le nombre de problèmes de santé mentale monte en flèche. Pourtant, on est un pays prospère. On est un pays où les alliances n'ont jamais été aussi brisées, premièrement familiales et parents-enfants. Pourquoi? Pour toutes sortes de valeurs qui n'ont pas reflété le royaume. Vous avez dit, bien pourtant, je n'ai jamais rien pensé de mal. Ben oui, mais ce n'est pas que tu as pensé de quoi de mal. C'est que tu n'as pas su prendre la pensée du royaume qui, elle, bâtit quelque chose de juste et de vrai. Tu n'es pas obligé de penser de tuer quelqu'un pour faire partie d'une ambiance dans laquelle les choses prennent place puis qu'il y a des meurtres qui se font quand tu détournes le regard. De dire, dans le fond, l'avortement, c'est pas grave. C'est ça, avoir un esprit meurtrier. De dire, l'euthanasie, dans le fond, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Ça, c'est un esprit de mort aussi. Tu ne l'as pas débranché, la machine. Mais par exemple, tu as donné ton approbation, ton accord. Alors, le Saint-Esprit va avoir de la misère avec toi pour que tu sèmes la vie. Ce qui sort de ta bouche, Dieu te considère un homme puissant parce que tu es un homme puissant. Ce qui sort de ta bouche, va se réaliser. Alors, mets ta bouche en accord avec la parole de Dieu si tu vas avoir de la puissance pour changer ce qu'il y en est. OK. Dans Matthieu 12, ça va même plus loin de dire vos valeurs doivent refléter le caractère de Christ, principalement le caractère. Et Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi divise. C'est quand même clair, non? De dire, c'est facile à savoir, de dire tout ce qui ne reflète pas la conformité du caractère de Christ va à l'encontre de son œuvre. Et à partir de ce moment-là, c'est là notre capacité de dire, est-ce que je suis en train de travailler contre moi-même? Est-ce que je suis en train de détruire ce que j'essaie de bâtir? Parce que je ne prends pas conscience de ce qui sort de ma bouche et je ne prends pas conscience de la portée des valeurs que je déclare. Ce que je sème, je vais le récolter. Alors, si vous commencez votre journée en disant « maudit travail, maudite vie », bien, vous allez avoir un maudit travail, une maudite vie. C'est ça. Si vous déclarez que vous avez une santé faible, vous allez avoir une santé faible. Si vous mettez plus de votre foi dans les diagnostics, que vous mettez votre foi dans la puissance de la croix, il va se passer ce qu'il vous dit. Vous allez avoir les diagnostics, ils vont être vrais, les diagnostics. J'ai passé une partie de ma vie à parler contre les cadres. Je ne suis jamais devenu cadre. La journée où ce que j'ai commencé à dire, « Seigneur, si je pourrais être significatif, être un fils de Dieu dans cette entreprise, si mon autorité peut faire comme celle de Daniel et celle de Joseph, je suis disponible l'année d'après, je t'accorde. Les valeurs sont une puissance quand on les porte et qu'ils s'enlignent avec le royaume. La troisième valeur, développer un leadership axé sur la transmission, la compassion, la révélation et l'onction. Votre leadership, OK, est premièrement un marchepied, un levier pour les personnes devant vous, et non l'inverse. Ça, c'est la valeur que Dieu nous a confiée dans son Église. Paul, il dit aux Philippiens, de dire, ayez le même caractère que Christ avait. C'est fait serviteur de tous. Notre leadership n'est pas là pour se donner un nom. Il est là pour faire connaître le nom de Christ. Il est là pour faire en sorte que les gens soient amenés à la connaissance de comment ils ont été aimés et comment c'est quoi leur potentiel. Et ça commence dans ton premier 24 heures de vie chrétienne. Ce n'est pas à un moment donné que tu vas commencer à te préoccuper de ton prochain en commençant. Les deux premiers commandements, c'est « aime Dieu puis aime ton prochain ». Si tu aimes ton prochain comme Christ t'a aimé, tu vas utiliser du leadership à son égard. Je ne sais pas c'est quoi la théorie que vous avez du leadership, mais pour moi, le leadership, c'est prendre la force que j'ai pour élever quelqu'un. C'est prendre les moyens que j'ai, les ressources que j'ai pour élever quelqu'un. M'investir dans quelqu'un pour que cette personne-là sache qu'elle est aimée de Dieu et qu'elle est importante pour Dieu. Je n'ai pas besoin de titre pour ça, je n'ai pas besoin de poste, je n'ai pas besoin de rien. Si le ministère vient, je vais l'utiliser et je vais le contribuer, mais en principe, c'est juste besoin d'une volonté de vouloir élever mon prochain. De me soucier que ta présence est importante. Établir les gens dans l'excellence de leur appel pour la gloire de Dieu. C'est quoi qui est avec ça? Ah, il n'y en a pas. Établir les gens dans l'excellence de leur appel pour Dieu. Vous savez, tout le monde qui va à Bethel dit la même chose. Tu rentres dans cette église et écoute, on t'aspire à t'élever dans ton plein potentiel. Partout, tu vas, tu sers la main de personne. « Hey, je peux-tu prophétiser pour toi? » Puis même chose pour l'église de Mike Bickle. Tout le monde est en action pour t'emmener à ce que tu puisses connaître davantage l'amour de Dieu de toutes les façons inimaginables. De toutes les façons inimaginables. Lydia, elle est à une église à Singapour. En fait, ce n'est pas une église, c'est une communauté de croyants à Singapour. Où ces hommes-là, c'est des hommes puissants à Singapour, c'est des millionnaires, c'est des hommes qui ont une très grande puissance financière, mais cette puissance-là est inférieure à leur première puissance, celle de t'honorer et de t'élever. Ces gens-là te donnent l'impression que tu fais partie de la royauté. On veut développer un endroit où est-ce qu'on va amener les gens dans l'excellence de leur appel, vous me voyez venir, ça dépend de chacun de nous. T'aimes pas ton église, critique-la pas, pars pas, investis-toi. Parce que tu vas critiquer et chialer toutes les églises. Il faut qu'on fasse les choses différemment si on veut voir différent. On a besoin de croire en nous. On a besoin de travailler en équipe. On a besoin de commencer à se donner le droit d'évoluer. Ah non, il y en a un que j'ai oublié, celui-là. Non. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là que je viens de vous dire, celui-là. Mais non, c'est quatre. Là, j'arrive à cinq. Croire qu'on a tous la liberté d'échouer, mais que tous aussi ont le devoir de répondre à leurs actes. Je vous ai parlé de la cloche tantôt, c'est ça. Si nous sommes une église où ce qu'on évolue et on grandit, l'échec fait partie du processus d'évolution. Mais on décide à travers l'échec, non de le voir comme étant un élément disqualificatif, mais comme voir un élément de qualification. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Edison a compris qu'après 999 fois la tentative de faire une ampoule, il a réussi à la millième fois. Il a dit, écoute, je peux te dire de quoi, j'ai appris quelque chose. Il y a 999 fois des façons mauvaises de faire les choses. Et maintenant, je la connais à la bonne. Ce que je veux dire, c'est de dire, si on enlève l'orgueil, puis on enlève l'esprit de rivalité, puis on enlève, dans le fond, la notion, tu sais, des mauvaises pensées, ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, je suis un pas bon, je suis un ci, je suis un... Si on enlève ça, si on est capable de couvrir ça avec l'amour de Christ, qu'est-ce qui va rester? Il va rester une personne prête à se reprendre pour dire, je pense que je peux faire mieux le prochain coup. J'ai regardé un peu ce qu'en était, non, puis je pense que je suis capable de faire mieux. Ou peut-être que je vais dire, écoute, je pensais que c'était une place pour moi, mais en fin de compte, ça brûle la pente dedans, je vais aller ailleurs. Mais cette personne-là ne sera pas découragée à poursuivre son développement. Deuxième chose, parfois, ce n'est pas une question technique qui fait qu'on se sent disqualifié ou qu'on rentre dans ce genre d'environnement-là, mais des fois, on fait des choses qui ne sont pas honorables. Des fois, on fait des choses qui manquent de dignité et qui blessent les gens et qui n'est juste pas bon pour le royaume. À partir de ce moment-là, de dire, je crois que tous ont le droit de reprendre et de regagner son honneur. Je crois que tous ont le droit de se repositionner et de dire, voici, j'ai fait un dégât, mais je vous dis, c'est pas moi ça. Voici ce que moi je suis. Je suis une personne d'honneur et je suis une personne qui est prête à reprendre. Et cette personne-là va avoir tout l'encouragement, va avoir tous les conseils possibles pour que cette personne-là puisse réparer ce qu'elle a brisé. Et cette année, dans cette église, j'ai vu des réconciliations. J'ai vu cette valeur en action. J'ai vu cette onction de cette valeur en action. Je tire en Scrabble, là, je vous dis ça. Et c'est quelque chose qui est tellement excitant. Quand tu n'as pas à te battre avec ce que les autres pensent. Parce que tu sais ce que les autres pensent parce que leur valeur est animée. Tes gens-là te rassurent de dire, on va faire en sorte de t'encadrer pour t'évoluer d'une façon ou dans laquelle tu n'auras pas à perdre la face, mais on va t'amener à ce que tu puisses développer ton assurance, développer ton expertise. Et on a des groupes maison, on a des groupes ici de croissance qui nous permettent de développer nos dons sans perdre la face, de dire, pogner le micro un dimanche matin, commencer à élever la voix, puis être complètement dans le champ, arrêter pas. Vous comprenez ce que je veux dire, là? C'est-à-dire, tu as le temps d'exercer, puis de commencer à grandir, puis d'apprendre la voix de Dieu, puis de faire les choses en fonction de voir comment que l'œuvre agit et comment que le Saint-Esprit agit. Mais pour ça, il faut avoir cette notion-là d'offrir un environnement sécuritaire. Le sixième, recherchant tout temps et tout lieu une atmosphère surnaturelle où Dieu, par sa présence et sa puissance, sera libre d'agir. Moi, je ne suis pas une personne très religieuse. Dans le sens où ce que je veux dire, c'est de dire, j'ai compris que le Saint-Esprit fait des choses nouvelles. Que le Saint-Esprit aime prendre des choses qui n'existent pas encore pour les faire exister. Pourquoi? Pour nous amener à nous développer. Donc, quand j'arrive avec une nouvelle personne ou j'arrive avec un nouveau groupe de personnes, je n'applique pas ce que nécessairement j'ai appliqué dans l'autre groupe d'avant. Mais je cherche à avoir une nouvelle parole. Je me mets au diapason de cet esprit pour faire les choses nouvelles. Et c'est la même chose. Quand je lis un livre, je ne veux pas nécessairement lire un livre qui abonde dans ce que je crois. Je veux lire un livre dans lequel le Seigneur va peut-être me challenger dans quelque chose qui n'est pas développé dans ma vie. Et je me permets de me faire mettre en doute. Parce que j'aime quelqu'un qui me demande d'exprimer mes convictions. Parce que des fois, je réalise que c'est une doctrine, mais pas une conviction. Et que je ne serais pas prête à donner ma vie ou même pas prête à prêcher là-dessus. Fait que je m'entoure pour m'assurer que, dans le fond, dans mes phases peut-être moins évoluées, que je ne brime pas l'Église de son avancement. Fait qu'il y a tout un travail d'équipe. Créer une atmosphère pour bâtir une atmosphère de croissance, il faut apprendre à travailler en équipe. Il faut apprendre que les dons soient mis en place pour être capable de déverser. Mais il faut avoir les bonnes attitudes pour le faire. Right, on sait de quoi qu'on parle. Pour les gens qui sont dans l'Église depuis longtemps, c'est-à-dire ça a souvent été un lieu de compétition puis un lieu de rivalité, beaucoup plus qu'un lieu d'unité puis de complicité. Mais il faut apprendre à veiller les uns sur les autres. La qualité de l'émotion qu'on utilise pour transmettre est aussi importante que l'élément transmis. C'est-à-dire, tu peux dire à une personne, Dieu t'aime, mais si cette personne-là ne sent pas l'amour de Dieu pour sa vie, cette personne-là va dire, tu parles comme un sépulcre blanchi. C'est ça. Tu as de l'air propre, mais tu es juste une tombe. Parce que je ne sens pas la présence de Dieu en dedans de toi. puis à vice-versa, tu sais, de l'autre côté, on serait les premiers à dire la même chose. Fait que c'est pas nécessairement de se mettre un fardeau trop grand pour les autres, c'est tout simplement de dire, on voudrait offrir aux autres ce qu'on aimerait recevoir en retour. Alors, cette année, on a vraiment le désir de vouloir faire les choses ensemble et de grandir. Je crois que le Seigneur nous a mis des valeurs qui nous permettent de travailler, de collaborer ensemble. On prie pour un réveil dans notre ville. On voudrait que notre ville soit animée des mêmes valeurs que je viens de créer ce matin. Imaginez-vous Saint-Jean-sur-Richelieu, 90 000 personnes prêtes à se servir mutuellement, prêtes à vouloir s'aimer comme Dieu les aime. Écoute, c'est fou, non? Imaginez-vous qu'on commence à repenser à une économie, non pas sur le fait de combler nécessairement nos désirs, mais bâtir une économie pour s'assurer que tous soient égaux. Vous savez, cette pensée-là, c'est les pères qui ont rendu des nations riches qui ont dit, vous savez, si vous êtes tous riches, les actions que vous allez poser et vos alliances pour faire fructifier votre richesse vont s'étendre dans le pays. Mais si vous tenez une nation pauvre, elle va continuer à amener la pauvreté. Et c'est la même chose dans l'Église. On peut lire dans les Actes qu'il y avait une notion de vouloir étendre la richesse pour qu'elle soit étendue. On veut prier pour qu'une moisson d'ouvriers vienne. Je me bats et je peux vous dire, c'est peut-être la notion, je me bats pour créer un environnement où tu vas avoir envie de participer au corps de Christ. Tu vas avoir envie de connaître tes dons et de faire grandir. Tu vas avoir envie que le monde connaisse ce que tu vis. On veut prier pour une église prospère spirituellement avec tous les dons. On veut prier pour que l'atmosphère de guérison, de restauration soit ici. Et je crois qu'on est encore plus, j'ai commencé mon message en disant, je pense qu'il y a des temps de formation, il y a des temps où on est plus prêt à rentrer dans des actions beaucoup plus concrètes. Et je crois que cette année 2020 va être un élément concret dans notre façon de communiquer le royaume de Dieu dans notre milieu. On va le faire à notre façon, avec notre identité, mais avec une relation authentique avec Christ qui va refléter son amour avec puissance. On commence à voir comment que Dieu agit quand on lui demande, quand on s'humilie et on prie, qu'on demande de venir guérir notre pays. On voit des couples être réconciliés, on voit des familles, parents, enfants être réconciliés. Cette année, on a entendu, écoute, un nombre incroyable d'enfants retournant auprès des parents. Des fois, des relations qui avaient été brisées depuis 20 ans, d'autres 10 ans et d'autres quelques années. Mais écoute, il y a vraiment quelque chose. Et chaque personne a témoigné en disant, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand je me suis mis à prier, de dire, Seigneur, réconciliation avec mes enfants. Change mon cœur, prépare-moi. J'ai commencé à prier et à intercéder. Il y a des portes qui se sont ouvertes. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je demanderai aux préposés de venir pour prendre la Sainte Seine. Et j'aimerais, écoute, on va faire de quoi de spécial le matin, juste de venir en avant. Je veux que tout le monde vienne en avant. Mes techniciens, OK. Oui, tu peux monter. Laissez de la place pour la table. Amen. Il faut commencer déjà à distribuer le pain. Vous pouvez commencer à distribuer le pain. Dans 1 Corinthiens 11, 23 à 32, Paul commence à enseigner l'Église à une réalité importante. Nous sommes tributaires les uns les autres. Nous sommes tributaires les uns les autres. Nous devons apprendre à prendre soin des uns des autres. Mais nous devons veiller aussi à la qualité des émotions qui se transmettent, des valeurs qui se transmettent. Quand Marc parle qu'il vient à la chambre chrétienne, tout ce qu'il dit nous reflète. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait reflète la chapelle chrétienne. Quand que je parle de la chapelle chrétienne, tout ce que je dis, ce que je fais vous reflète. Et à partir de ce moment-là, de dire, il faut faire attention que si on a cette responsabilité-là ensemble, il faut faire attention qu'à nous-mêmes, à l'intérieur de la maison, qu'il n'y ait pas un esprit de division. C'est difficile de faire amener quelqu'un quand la maison est divisée. Tu dis, écoute, reste où ce que t'es parce que chez nous, c'est pas mieux. Tu es déjà dans un lieu de division, bouge pas de là parce que si tu viens chez nous, tu vas voir encore du monde se battre, encore du monde se quereller. Mais je crois que le Seigneur est en train de faire une œuvre. Et à travers la Sainte-Sainte, je crois qu'il y a une puissance qui relâche en nous le désir de s'aimer encore d'une façon plus authentique. Et on peut lire dans 1 Corinthiens 11, 23 à 32, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est Paul qui dit ça. Et aujourd'hui, il nous enseigne. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit, il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. » On est ici aujourd'hui et on est le corps. Tous ces visages différents, toutes ces vies différentes. On reflète quelque chose qui est très important dans le royaume de Dieu. Un point tel que Jésus a décidé de venir donner sa vie sur la croix pour que nous vivions ça aujourd'hui. Il faut que ça soit inscrit, qu'on est véritablement un pour tous, tous pour un, et que Christ est au centre. Alors, Seigneur, on veut te dire que continue à te révéler, Saint-Esprit, continue à nous révéler la profondeur de cette réalité de cette Église. Seigneur, donne-nous la révélation de la voir telle qu'elle est vue dans le royaume. Seigneur, on veut devenir, Seigneur, ta fiancée, celle, Seigneur, qui va luire, Seigneur, qui va briller dans ce monde par sa beauté, par sa grâce, par la qualité de sa royauté. Et Seigneur, rends-nous, Seigneur, capable de pouvoir atteindre ce niveau, Seigneur, où ce que ton amour va être pleinement reflété à travers nos vies. Seigneur, on veut se lier ensemble aujourd'hui comme des vases communicants en sachant que les dons ont été donnés à tous et chacun pour se s'édifier, s'exhorter et s'amener à marcher dans une plus grande perfection. Alors, Seigneur, on te donne, Seigneur, l'autorité de nous utiliser pour construire ton corps, ton Église. Amen. Mangeons ensemble. Il y a quelque chose qu'on apprend premièrement, le corps, quand on mange le pain, c'est de notre part, c'est un geste d'humilité, où ce qu'on s'humilie pour que Christ puisse grandir en nous. Et on veut que notre place individuelle devienne une place collective. On veut que tout ce qu'on a et ce qu'on on a comme potentiel ne soit plus pour s'élever nous-mêmes, mais pour véritablement être un levier pour que les autres puissent s'élever. Parce que l'Esprit qui est à l'intérieur de nous nous donne une vie riche et abondante. On n'a pas l'impression de donner notre essentiel. Au contraire, on donne notre superflu rempli de la présence de Dieu. On donne notre superflu. Et on amène les gens à vivre dans cette vie où ce que la surabondance vient dans la joie, dans l'Esprit, parce qu'on marche avec les fruits de l'Esprit. On marche avec le Saint-Esprit en dedans de nous. Et si vous dites, « OK, j'aimerais ça connaître ça, ces choses-là », je vous dirais, nous, on a l'habitude dans notre cellule de mettre une chaise en plein centre avant de finir et on met quelqu'un là puis on prie pour lui, on étend la main. Et je peux vous dire, tout ce qui se déclare là, ça met une joie. Je rentre des fois en rampant dans ma cellule parce que la journée était longue, mais quand je sors de là, écoute, j'ai de la misère à me coucher. Parce que je suis... il y a comme une présence et une puissance de vie en l'intérieur de ma vie qui a été activée parce que j'ai coulé la réalité du royaume dans la vie des gens. Et je crois que je ne suis pas le seul. Mais je crois que tout le monde est impacté, mais c'est une des réalités qu'on doit apprendre à connaître. Comment laisser la présence de Dieu? Et ça, c'est dans l'alliance qu'on trouve. L'alliance, c'est de nous permettre d'agir avec... Alliance, ça veut dire allié. Ce que le royaume de Dieu veut accomplir, nous sommes alliés avec cette réalité. Ce qui est naturel pour le royaume de Dieu est surnaturel pour nous. Et apprendre à marcher dans la réalité de cette alliance, c'est d'apprendre à marcher dans des choses qui sont au-delà de ce que, du naturel, de ce que nous avons connu. L'alliance, le sang, c'est de nous permettre de pouvoir marcher avec l'autorité du ciel, pour accomplir la volonté du ciel. Nous sommes maintenant des héritiers, scellés. Ce que Christ a fait sur la terre, nous allons le faire, et peut-être même pour certains, faire encore plus. Pourquoi? Parce que Christ, ce qu'il a accompli, il l'a accompli parce qu'il regardait son Père et l'amour de son Père lui donner une directive pour étendre le royaume. Et parce que nous sommes aimés par le même cœur, par le même Père, ce que Dieu nous révèle, on va l'étendre comme Jésus l'a étendu, le même amour. Alors, mes amis, aujourd'hui, c'est important de savoir que vous êtes utiles, efficaces et puissants et terrorifiants pour l'enfer. Alors, est-ce qu'on peut prendre ensemble cette coupe pour te dire maintenant, Seigneur, on boit à cette alliance parce qu'on est des fils et des filles de Dieu. Buvons ensemble. Merci, Seigneur, pour l'héritage de cette vie si riche. Et Seigneur, merci pour l'héritage de ce foyer et merci pour l'héritage de la perfection des valeurs que tu nous mets dans nos vies. Amen. Bonne année 2020. Désolé, je l'ai passé. J'étais supposé d'être plus court, mais en tout cas. Alléluia.